Florence, merci. Nous allons tout de suite entrer de plein pied dans la session des questions-réponses. Je vous l'annonçais, nous attendions également Madame Awasek, la représentante d'ONU Femmes, qui est en ce moment en pleine manifestation dans le cadre de cette journée internationale de la femme au Shark Club. Elle va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Mais en attendant qu'elle puisse arriver ou qu'on puisse rejoindre en tout cas Goma pour le point de la situation militaire, nous allons tout de suite ouvrir ici la séance des questions-réponses. Et je vais vous demander de mettre vos portables sous silence ou de les éteindre jusqu'à la fin de cette conférence de presse. Nous commençons donc avec une question peut-être au fond de la salle. Nous avons un micro de ce côté. Nous avons un micro plus, voilà, un peu plus au fond là, s'il vous plaît. Donc vous vous présentez, vous posez une question et puis comme ça on pourra continuer. Monsieur Benoît Cambéré, essayez d'aller vite, comme ça on ne va pas perdre de temps. Allez-y.
C'est le micro qui devait venir vite. Bon, Benoît Cambéré pour les Échos de la région des Grands Lacs et RTVL Magazine. Monsieur le directeur, le chef de bureau de la MONUSCO Goma a déclaré que les ADF Nalu seraient une machination, voire une escroquerie. Qu'est-ce que la MONUSCO en dit ?
Nous n'avons pas entendu ces déclarations du monsieur dont vous faites référence, mais pour nous, c'est clair que les ADF Nalu sont un groupe terroriste qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Le Conseil de sécurité nous en a donné le mandat et dans les différentes résolutions du Conseil de sécurité, il est dit précisément les FDLR, les ADF et les autres groupes négatifs présents dans l'est de la RDC doivent être combattus et neutralisés par les forces de la MONUSCO. C'est ce que nous essayons de faire depuis longtemps. On n'a pas un autre message par rapport à ça. C'est clair, nous avons une feuille de route claire et précise en matière de neutralisation de ces groupes armés. Nous le ferons, nous sommes en train de le faire conjointement avec les forces armées de la RDC, les FRDC. La tâche est rude, mais nous progressons doucement, c'est vrai, lentement, c'est vrai, mais nous progressons tout de même. Deuxième question, allez-y.
Merci, M. Charles. C'est Théodore Gandou pour les comptes de Télé 7. Bientôt, le Conseil de sécurité devra adopter la prochaine résolution qui va peut-être proroger encore le mandat de la MONUSCO. Mais avec la 2277, nous constatons que cette dernière n'a pas de caractère contraignant, parce que jusqu'à aujourd'hui, elle souffre d'application. Est-ce que pensez-vous que la prochaine résolution sera totalement appliquée si l'actuelle résolution n'est pas encore entièrement appliquée?
Il faut dire que à l'heure actuelle, effectivement, les discussions sont engagées tant au niveau du Conseil de sécurité à New York, au niveau, au niveau même de la MONUSCO. Nous avons reçu récemment une délégation de ce qu'on appelle les porteurs de plumes. C'est une délégation française qui prépare, qui est en charge donc de préparer la prochaine résolution du Conseil de sécurité concernant donc la RDC, la MONUSCO de façon plus spécifique. Et ils sont venus pour des concertations, c'est vrai, non seulement avec la MONUSCO, mais aussi avec les autorités congolaises, pour justement mieux cadrer, cibler les contours de cette résolution afin qu'elle puisse déterminer le travail futur, la feuille de route de la MONUSCO dans les prochains mois, dans les prochains 12 mois. Ce travail va être finalisé d'ici la fin de ce mois, de mars. D'ailleurs, je peux vous annoncer que dans quelques semaines, le représentant spécial ira justement à New York pour assister à cette séance du Conseil de sécurité pour le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Il y a une continuité depuis la MONUSCO jusqu'à la MONUSCO en termes de... Il y a des thèmes qui reviennent fréquemment, la protection des civils, la sécurisation. C'est un travail, c'est vrai, de longue haleine. Nous appuyons, n'oubliez pas, nous le disons très souvent, la première responsabilité de la sécurité du pays revient aux forces de sécurité nationale. Nous appuyons leur effort. Nous avons développé d'ailleurs pas mal de partenariats dans ce cadre pour essayer de travailler vraiment dans le même sens. J'avoue que la prochaine résolution qui vient aura un thème et tout le monde s'attend à ce que le thème central puisse être les élections, sans oublier bien sûr tout le volet sécuritaire, protection des populations, etc. Nous allons essayer dans la mesure dans la mesure de nos moyens de remplir cette tâche convenablement. Nous l'avons commencé tout à l'heure. Vous avez entendu Florence faire le point du soutien de la MONUSCO au déploiement des kits et du matériel électoral. Nous allons continuer cela avec, si la nouvelle résolution le confirme, afin de vraiment parachever ce travail dans le cadre de cette nouvelle résolution que nous attendons nous tous. Nous ne savons pas les contours exacts, mais une fois que nous l'aurons, toute la MONUSCO va s'engager résolument avec le soutien des agences du système des Nations Unies présents à RDC pour remplir ce mandat. Nous ne pouvons pas dire retour à Goma, nous n'avons toujours pas Goma. Nous allons rester peut-être sur de ce côté un peu pour changer de camp. Peut-être prendre une question du côté de la porte. Présentez-vous et puis posez une question, s'il vous plaît.
Bien, KMBRTGA@goplabio.org. Question politique. L'épiscopat congolais craint que la scission en cours au sein du Rassemblement ne remette en cause les conclusions de l'accord signé le 31 décembre. Vous, vous tenez absolument à la mise en application de cet accord. Je voudrais savoir si, au niveau de la MONUSCO, la division politique est en train de voir comment concilier les vues afin de mettre le parti en conflit d'accord selon vous.
Il y a ce que nous appelons toujours les bons offices, et je crois que pour beaucoup, c'est pas des actions qu'ils voient, mais je peux vous certifier que les bons offices du représentant spécial continuent. Il a reçu encore cette semaine toutes les tendances de l'échiquier politique congolais, de la mouvance, bien sûr, de la majorité présidentielle comme de l'opposition. Il a continué à recevoir et à s'entretenir avec les membres de la CENCO. Et pourquoi ? Pour vraiment essayer justement de rapprocher les points de vue au niveau de l'opposition. C'est vrai que cette scission au sein du Rassemblement pose problème, en ce sens que ça paralyse quelque peu d'ailleurs le travail de la CENCO. Vous avez vu cette semaine aussi le communiqué de l'Union européenne qui va dans ce sens, qui appelle les uns et les autres à plus de responsabilité afin que l'on puisse aller vers l'échéance des élections prévues d'ici la fin de cette année. Nous sommes d'accord qu'il faut dans un premier temps qu'il y ait ce regroupement au sein du Rassemblement pour que la CENCO puisse continuer son travail, le travail donc qu'il a entrepris avec la signature de l'accord du 31 décembre, afin que nous puissions progresser de façon raisonnable vers donc les échéances fin décembre de cette année pour les élections. Voilà ce que nous pouvons dire, mais nous allons interrompre cette session de séance et questions pour accueillir Madame Wasek, qui est donc la représentante d'ONU Femmes ici à RDC, à l'occasion de cette journée internationale de la femme. Depuis ce matin, la journée se déroule au Char Club, je sais que vous en revenez. Alors pour vous et pour les journalistes présents et pour les auditeurs aussi de Radio Okapi qui nous suivent en direct de cette conférence de presse, quelle est l'importance de cette journée et qu'est-ce que vous avez prévu tout au long de cette journée? Bonjour et bienvenue.
Merci beaucoup. Bonjour à tous ceux qui nous suivent, donc aux auditeurs qui nous suivent dans ces échanges. Bonjour à tous les journalistes. Je voudrais m'excuser parce que vous avez dû suivre, parce que ça passait en direct sur Radio Okapi et sur la RTNC. Je devais faire mon discours. Et immédiatement après le discours, j'ai dû partir pour ne pas être en retard, mais la cérémonie a démarré avec un peu plus de retard avec un peu de décalage, et elle est en train de se dérouler. Alors, quel est le sens de cette journée? La journée internationale de la femme, je pense, est l'une des journées dédiées aux droits de la femme, l'une des journées les plus connues à travers le monde. Je pense que partout où vous allez, vous savez que c'est une journée qui se fête, qui se respecte. Et cette journée a une histoire très ancienne qui date déjà de 1908, hein, aux États-Unis, et qui a évolué jusqu'à être déclarée journée internationale fêtée partout, parce que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé en 1977 que le 8 mars serait dédié à la journée internationale aux droits de la femme et serait célébrée par tous les États membres des Nations Unies. Donc c'est le sens de cette journée qu'il y ait une journée où on parle de ce qui a été réalisé, donc se refléter sur ce qui s'est déjà passé, mais qui permet également de discuter du présent et de se projeter vers le futur. Cela signifie donc que les organisations de femmes se retrouvent à travers leurs différentes composantes, du milieu professionnel, du milieu non professionnel, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de femmes dans le milieu non professionnel, mais cela également signifie que les hommes, et je suis contente de voir ici presque une parité dans la salle, que les hommes se joignent également aux femmes pour fêter. Et j'ai demandé le matin à tous mes collègues hommes ce qu'ils avaient fait de spécial pour leurs épouses ce matin avant de quitter la maison. Il y en a qui m'ont répondu: madame, nous prévoyons quelque chose quand nous rentrerons. On va vérifier. Mais voilà vraiment le sens de cette journée. Et donc, bonne fête à toutes les femmes qui sont ici. Et je demande aussi aux hommes qui sont ici de dire bonne fête à leurs épouses, à leurs sœurs, à leurs mères, à leurs filles.
Voilà, merci bien Madame Awa Sek. Vous n'étiez pas là au début de cette conférence de presse, mais les hommes journalistes dans la salle ont applaudi pour leurs consoeurs. Et c'était une première.
J'aimerais qu'ils applaudissent à nouveau, pour que je les entende moi-même. Voilà.
Bon, voilà, c'est fait. Nous allons peut-être partir à Goma pour une synthèse. On voudrait une synthèse de la situation militaire. Je ne sais pas si nous avons le colonel Serge Hag à Goma. S'il est là avec l'équipe, colonel, c'est à vous pour une synthèse donc du point de la situation militaire de la semaine. Bonjour et bienvenue.
Merci. Situation militaire. La situation sécuritaire dans la vieille province de Kinshasa et dans les autres provinces situées dans les parties du centre de l'ouest de la République démocratique du Congo a été jugée sous contrôle mais volatile durant la semaine écoulée. Au Kasaï central, la situation sécuritaire demeure tendue et imprévisible. Elle a été caractérisée par des accrochages rapportés entre les forces de défense de sécurité congolaises et des éléments de la milice Kamuina Sapu, notamment dans les localités de Nguema et de Milomba. Les casques bleus de la force de la MONUSCO, basés dans cette province, sont déployés dans les localités affectées dans le but de contribuer à la restauration de l'autorité de l'État et de protéger les populations civiles. Le 2 mars 2017, le commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général de division, Bernard Comins, a effectué une visite opérationnelle à Kananga, afin d'évaluer la situation sécuritaire qui y prévaut et l'action du déploiement de la force de la MONUSCO dans le cadre du renforcement de sa présence dans la région. Une nouvelle mission a eu lieu encore hier. Par ailleurs, le 6 mars 2017, les présumés éléments de la milice Kamuina Sapu ont tendu une embuscade au casque bleu de la force de la MONUSCO en patrouille dans la localité de Boulongou, située à 41 km au nord-ouest de Kazumba, et blessé un soldat de la paix. Les troupes du bataillon uruguayen de la force de la MONUSCO ont riposté et repoussé les assaillants. Dans les provinces de Ho et de Baweli, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, soutenues par la force de la MONUSCO, poursuivent la traque des éléments de l'armée de résistance du Seigneur, LRA. Elles ont initié une opération visant à neutraliser les rebelles de la LRA ayant kidnappé des civils et permis la libération de 28 d'entre eux. En Ituri, la pression militaire maintenue par l'armée congolaise avec le soutien de la force de la MONUSCO sur les éléments du front de résistance patriotique de l'Ituri a contribué à l'arrestation des éléments de ce groupe armé et à la réduction sensible de leurs exactions perpétrées au sud du territoire d'Irumu. Le bilan de ces opérations est de 7 membres du FRPI capturés et 5 neutralisés. L'action la plus importante a eu lieu le 4 mars 2017, où 3 éléments du FRPI ont été tués au cours d'accrochages avec des troupes coalisées FRDC MONUSCO déployées en patrouille dans la localité de Tchekele, située à 6 km au nord d'Aveba. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire jugée volatile et imprévisible demeure cependant sous le contrôle des forces congolaises et onusiennes. Dans le territoire de Beni, l'armée congolaise poursuit, avec le soutien de la force de la MONUSCO, ses opérations militaires contre les éléments de l'Alliance des forces démocratiques ADF dans le but de mettre un terme aux exactions perpétrées contre les populations civiles. Le 2 mars 2017, des éléments supposés appartenir à l'ADF ont tué 3 personnes désarmées dans la forêt de la localité de Mamoun Diouma, Sitôt informés, les casques bleus de la force de la MONUSCO, basés dans la région, ont été immédiatement projetés sur les lieux dans le but de vérifier l'information, de dominer le terrain et de traquer les assaillants. Dans le territoire de Massissi, l'armée congolaise, soutenue par la force de la MONUSCO, maintient la pression militaire sur les éléments réfractaires de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain dans le but de les neutraliser. Au chapitre des reddictions, dans la province du 1er mars 2017, à ce jour, 6 éléments en provenance des groupes armés, 4 des forces démocratiques de libération du Rwanda, se sont rendus aux troupes des forces congolaises et onusiennes déployées dans la province. Au sud Kivu, les forces congolaises et onusiennes agissent ensemble pour accroître la situation sécuritaire dans cette partie du pays, en dépit de l'activisme des groupes armés réfractaires liés aux embuscades et vols de bétail rapportés à Kabumbe, Suima et Kaliba Onde, au Tanganyika. La situation sécuritaire a été jugée tendue et imprévisible suite à la persistance des conflits interethniques entre les communautés Luba et Twa. La MONUSCO poursuit sans relâche avec les autorités congolaises les activités visant la réconciliation des deux ethnies, la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Enfin, la force de la MONUSCO a conduit plusieurs centaines de patrouilles armées, de jour comme de nuit, et fourni plusieurs escortes, soit pour évacuer des civils blessés, soit au bénéfice d'ONG pendant la période sous examen. Je vous remercie.
Colonel Hag, merci depuis Goma. Nous allons revenir ici pour poursuivre cette séance de questions-réponses et je vais donner peut-être le micro à la dame à côté. Je rappelle que nous avons comme invité spécial Madame Awasek à l'occasion de cette journée internationale de la femme.
RTNC2 Développement, Laetitia Massela, Madame la représentante. Nous sommes au mois de mars, mois dédié à la femme. Or, la grande partie des victimes de guerre, de violences sexuelles et de calamités sont de femmes. Les Nations Unies disposent-elles d'un plan d'action efficace pour redorer l'image de la femme par la diminution de toutes ces menaces? Pour cette année, Madame la représentante, quelle contribution extraordinaire avez-vous précisément pour le femme de la RDC? Merci.
Oui, allez-y, madame.
Merci. Vous savez, nous avons fait, il y a quelques semaines, à l'occasion de la visite en RDC de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, madame Zainab Bangoura, à l'occasion de sa visite, nous avons fait une rencontre avec les autorités compétentes de la RDC. Et un des points qui avait été évoqué, c'était qu'il y avait une évolution, une baisse des chiffres qu'on avait constaté au niveau des violences sexuelles et des violences basées sur le genre. Mais quand nous intervenons dans le genre, nous disons que même un cas de violence sexuelle, un cas de violence basée sur le genre, c'est un cas de trop. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une évolution, parce qu'il y a une grande mobilisation. Les gens en parlent, ce qui n'était pas toujours le cas. Ce n'est pas uniquement RDC, un peu partout. Les gens maintenant en parlent. Mais nous sommes confrontés à un problème d'impunité, à un problème de capacité des femmes à aller pour rapporter ce qui leur est arrivé, à un problème de stigmatisation au niveau de la communauté, parce que au niveau de la communauté, les gens parfois ne comprennent pas toujours que la femme qui a été violée est une victime et non une personne qu'il faut marginaliser, mais également une question de réinsertion une fois que la femme est sortie et s'est exprimée et a même reçu une compensation ou a vu celui qui l'a violée puni par la justice. Et c'est l'ensemble de ces préoccupations que nous avons intégrées dans une stratégie conjointe, un programme conjoint où vous retrouvez ONU-Femmes, le FUNIAP, UNESCO, mais également UNICEF. Et nous travaillons ensemble dans certaines provinces ciblées et ici à Kinshasa pour apporter les réponses aux questions de violence sexuelle et basée sur le genre. Parler également de la prévention que nous continuons à faire, mais également parler du volet éducation, communication, et également de du volet réinsertion économique et autonomisation économique. Ceci s'inscrit dans le cadre d'une de la mise en œuvre de la stratégie nationale, parce que n'oubliez pas que les partenaires au développement viennent appuyer les autorités nationales. Donc il y a une stratégie nationale qui existe ici en RDC, et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie nationale que l'action dont j'ai parlé se situe. Mais au-delà de ce programme conjoint, chaque agence du système des Nations Unies, la mission des Nations Unies, dans le cadre de nos interventions régulières, prend en compte cette question. Que ce soit pour parler de sexual and exploitation and abuse, donc l'exploitation sexuelle et les abus, que ce soit dans les questions des enfants, des victimes des conflits, la question des violences sexuelles revient dans tous nos programmes, de manière transversale, de manière verticale, de manière horizontale. Et vraiment, c'est un point sur lequel nous insistons, et nous pensons que vous, des médias, vous pouvez jouer un rôle, et vous jouez ce rôle. Aidez-nous à ce que aucun cas ne reste inconnu. Il faut en parler. Il faut faire des reportages, il faut faire des articles, il faut que les gens sachent que quand une femme est violée, elle n'est pas seule. La deuxième chose, il faut qu'on sensibilise également les hommes, parce que ce n'est pas uniquement l'affaire des femmes. Nous sommes les hommes, vous êtes des pères, vous êtes des frères, vous êtes des maris. Et dans vos familles, vous n'aimeriez pas que ceci arrive à vos filles, à vos nièces, à vos épouses. L'autre chose que je voudrais également qu'on retienne, c'est que maintenant, quand on parle de violence sexuelle, avant, on pensait aux femmes. Et effectivement, il y a plus de femmes et de jeunes filles. Mais maintenant, il y a un phénomène où les jeunes garçons font également l'objet de violences sexuelles. Et c'est également un aspect qui nous interpelle tous et que nous devons prendre au sérieux.
Merci, madame. On va peut-être donner la parole. On a rarement certaines bras qui se lèvent, donc on va profiter. Merci, bienvenue, présentez-vous et puis une question.
Merci beaucoup, c'est Deden Ndomba pour la RTNT Radio. Madame Sek, nous avons remarqué que la CENI a déjà lancé l'opération d'identification et d'arrondissement des électeurs dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. Constat fait sur terrain, faible taux des femmes à cette opération. Quelles sont les stratégies mises en place par l'ONU Femmes pour inciter les femmes à se faire enrôler massivement?
Alors, je voudrais que vous tous, quand vous sortez d'ici, vous reteniez que nous sommes ONU Femmes. ONU Femmes, hein, parce qu'il y en a encore, nous avons parmi nos ancêtres ONU Unifem, et nous avons évolué pour devenir ONU Femmes. Mais je voudrais revenir sur ce. Vous avez posé un problème extrêmement important, la question de la participation. La dernière fois que la RDC a organisé des élections, c'était en 2011. Donc ça veut dire que les personnes qui avaient 13 ans à l'époque ont atteint aujourd'hui l'âge pour aller aux élections. Ça présente une opportunité. Et quand on veut aller aux élections, si on n'est pas inscrit, on ne peut pas voter. Et c'est pourquoi la question de l'enrôlement est importante. Cependant, les chiffres sont meilleurs que ce que vous avez. Et ces chiffres évoluent de jour en jour, mais évoluent aussi de province en province. Je vous donne juste deux exemples. Nord Ubangi, c'était la première ère. C'est là-bas que l'enrôlement a commencé. Et quand on a commencé au Nord Ubangi, je me souviens, les trois premières semaines, nous avions fait le suivi pour avoir les chiffres. On avait 25% de femmes. 25%. Et après une action conjuguée entre la CENI, les organisations de la société civile, ONU Femmes et les autres agences des Nations Unies, les partenaires au développement et le gouvernement provincial, nous sommes arrivés à 45% au moment de la clôture. Vous me direz, ce n'est pas 50%, mais partir de 25% à 45%, c'est déjà pas un grand progrès. Mais nous avons retenu cette leçon. Et quand on est passé à la deuxième ère géographique, nous sommes allés, nous avons pris le cas du Sud Kivu. À l'heure où je vous parle, au niveau du Sud Kivu, on est à 51% de femmes qui sont enrôlées. Et j'ai demandé à mes collègues de faire en sorte qu'on se retrouve avec les chiffres qu'il y avait en RDC en 2006. En 2006, on avait plus de 52% de femmes qui étaient inscrites. Et en 2011, ces chiffres sont descendus à plus de 51%. Donc je leur ai dit que j'aimerais qu'on se retrouve à plus de 52% au Nord Kivu, parce que c'est ça qui correspond à la proportion de la population. Donc dans d'autres provinces, on est en dessous de 50%. Dans certaines provinces, on est à 50%. Mais notre objectif, on va se battre et vous allez nous aider. Je sais qu'à l'heure où je vous parle, les organisations des femmes sont sur le terrain. Les autorités traditionnelles nous aident et la CENI nous aide énormément. À l'heure où je vous parle, des actions conjuguées sont en train de se mettre en place pour que ce taux puisse être apporté au moins à 50% quand les opérations vont se clôturer. Parce qu'autrement, on aura laissé des électrices potentielles derrière.
Nous allons partir à Goma avec votre permission. Il y a eu beaucoup de problèmes techniques avec Goma. Ensuite, nous, on reviendra ici à Kinshasa. On va prendre des questions. Donc, Goma, s'il vous plaît, on peut prendre deux questions. Allez-y, hein. Je sais que vous avez un micro là-bas. Présentez-vous et puis posez une question. Le son, s'il vous plaît, on n'entend pas. Allez-y.
C'est Victor Bigatti pour le compte du journal Breaking Up. Je vais tout droit poser ma question au général commandant force adjoint de la MONUSCO. Selon nos informations, nous avons des informations que les Mai Mai Mazembe demandent à la Mai Mai Mazembe demandent aux communautés Hutu qui se trouvent à Lubero des vidés qui avaient résisté aux atrocités de la fois passée. Demande à la communauté Hutu qui sont encore à Lubero de quitter les lieux. Vous, en tant que la MONUSCO, car vous avez le mandat de traquer les groupes armés, qu'en dites-vous?
Oui, bonjour. Général Cummins.
Permettez-moi aussi d'adresser. Oui, bonjour. Bonjour à tous nos auditeurs et permettez-moi aussi d'adresser mes sincères félicitations à toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui et dont on sait le rôle éminent dans nos sociétés et en particulier dans les sociétés africaines. Pour revenir à votre question, nous sommes peu sensibles à ce que disent les Maïmaï. Les Maïmaï sont un groupe armé contre lequel nous luttons côte à côte avec nos camarades des forces armées congolaises et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour prévenir et neutraliser, lorsque nous le pouvons, ce groupe armé. Il est vrai que, comme vous le dites, ils ont appelé il y a quelque temps les populations Hutu à quitter une région et à même mettre un ultimatum. Ce que je peux vous dire, c'est que les forces de la MONUSCO qui sont déployées dans cette région, et dont on a entendu dire ici ou là qu'elles pouvaient avoir l'intention de se retirer, c'est faux. Les forces de la MONUSCO que nous avons dans cette région y sont, y resteront aussi longtemps que la situation le nécessitera. Nous sommes en particulier extrêmement attentifs à cette situation et je dois vous dire que, comme on l'a dit tout à l'heure en ouverture de ce point de presse, un certain nombre d'actions ont été conduites conjointement avec les forces armées congolaises qui ont permis la neutralisation d'un certain nombre de ces combattants Mai Mai. Voilà donc ce que je peux vous dire à ce sujet. Nous restons présents et nous continuerons de nous opposer autant que nécessaire à ces groupes armés.
Goma toujours. Rapidement, s'il vous plaît, Goma. Le micro. Question.
Je suis Lucienne Damous, éditrice du journal La Gazelle. Ma question, je reviens sur les cas de violences sexuelles qui s'est passé à Beni, il y a 72 heures. Qu'est-ce que l'ONU Femmes pense faire pour ces femmes qui sont maintenant dans des hôpitaux vis-à-vis de la violence sexuelle?
Allez-y, Madame Sec.
Alors, au niveau de la province, nous travaillons avec des partenaires parce que nous sommes ici, nous avons un bureau localement, mais nous avons également des partenaires de mise en œuvre qui sont des organisations locales qui, avec lesquels nous avons des accords de partenariat et qui mettent en œuvre un certain nombre d'initiatives. Je pense que vous connaissez peut-être parmi eux, j'aime bien parler de Congomen, qui constitue un groupe d'hommes particulièrement dynamiques qui interviennent dans la zone, qui font beaucoup de sensibilisation. Mais il y a également d'autres organisations de femmes avec lesquelles nous travaillons. Et par-delà cela, quand nous quittons Goma, vous allez vers Bukavu, nous avons des partenaires tels que l'hôpital Panzi, parce qu'il y a également l'aspect de prise en charge médicale que nous devons gérer. Et à travers des partenaires qui ont peut-être qui sont organisés, qui ont des réseaux et qui parviennent à toucher le niveau provincial, mais également descendre au niveau des territoires, nous parvenons à couvrir une bonne partie. Mais notez que cette question de violence sexuelle est une question qui ne peut pas être réglée par un seul partenaire. J'avais parlé tout à l'heure de ce partenariat-là, de ce programme conjoint qui intervient d'ailleurs dans la province du Nord Kivu. Mais il y a d'autres partenaires bilatéraux, multilatéraux, donc qui mettent également beaucoup de ressources dans les activités qui sont menées dans ce cadre. Et il y a la MONUSCO qui intervient beaucoup. Alors globalement, encore une fois, nous sommes toujours... nous aimons toujours parler des progrès qui sont réalisés partout, mais nous insistons également sur ce qui reste à faire et nous demandons à tout un chacun de s'investir pour que enfin un jour nous puissions avoir une RDC qui n'ait plus de cas de violence sexuelle. Et ça, c'est peut-être ambitieux, mais c'est quelque chose vers quoi nous tendons.
Merci, merci. Nous allons revenir à Kinshasa pour prendre une question à droite, une question à gauche. Allez-y, une question, hein, s'il vous plaît.
Oui. À Luanga, il y avait plus de 4000 déplacés Hutus qui vivaient depuis, notamment depuis qu'ils avaient été massacrés un peu partout autour et qui s'étaient regroupés là. Ils sont tous partis, les derniers sont partis ce lundi. Ils ont évacué en quelques jours. Sous la menace notamment des Maïmaï et Mazembe, comme en parlait le collègue, ils se disent les derniers Hutus du sud Lubero. Est-ce qu'à ce stade, on peut parler d'une politique de nettoyage ethnique des Maïmaï et Mazembe? Est-ce que ce nettoyage ethnique est effectivement terminé? Est-ce qu'il n'y a plus de Hutus au sud de Lubero? Et qu'est-ce qui a été fait par la MONUSCO et par le système des Nations Unies pour éviter que cette population qui est fragile, qui était fragile, ne se retrouve pas obligée de partir ou contrainte à partir comme elle l'a été? Voilà.
Je vais laisser le général Comines répondre à ça, à cette question tout de suite, mais il le disait là dans la question précédente que il rappelait que les forces de la MONUSCO étaient et restaient dans la zone tant qu'on aurait besoin de cette force-là. Général, c'est à vous pour peut-être éclairer un peu la lanterne de Radio France Internationale sur cette question.
Extrêmement intéressante et importante car elle souligne et elle met en évidence un certain nombre de choses qu'il faut peut-être rappeler. L'action de la force n'est pas seule à permettre de revenir à une situation stable. La force de la MONUSCO avec nos partenaires congolais vise à empêcher les affrontements violents ou à neutraliser des groupes armés dès lors qu'on en a la possibilité. Et on le cherche chaque jour. Maintenant, la situation telle qu'elle est décrite est vraie. Il y a eu effectivement des populations Hutus qui ont quitté cette zone, mais je n'irai pas jusqu'aux termes extrêmes qui ont été employés par, par notre invité. Ce que nous avons pu observer, c'est que les populations qui étaient venues dans cette zone de Luanga, où nous avons un détachement qui est installé à côté d'un détachement des forces armées congolaises, ces populations ont quitté cette zone progressivement. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Et nous avons observé ce mouvement depuis maintenant plusieurs semaines. Plusieurs raisons à cela. Une raison qui est importante, c'est que malheureusement, ces populations ne trouvent pas dans cette zone de quoi s'alimenter au quotidien. Et donc,
Cela me ramène directement à ce que j'évoquais en préambule, les responsabilités. La force a une part de responsabilité pour préserver la sécurité, élargir la sécurité, combattre les groupes armés. Mais d'autres ont aussi des responsabilités pour amener des populations à dialoguer, à se réconcilier, pour permettre la restauration de l'état de droit, et aussi pour rendre chacun de ceux qui commet un acte délictuel responsable de ces actes. C'est simplement la règle des trois R. Réconciliation, et c'est ce que nous avons fait à Belaoussa l'année dernière, qui je crois est un modèle de réussite, même s'il reste encore des difficultés. Mais il y a eu un investissement important de tous les acteurs autour de cette zone pour permettre une situation meilleure aujourd'hui. Tout le monde s'est mobilisé. Bien, c'est bien cela qu'il faut que nous parvenions à faire dans cette zone. Permettre aux communautés de discuter et de se réconcilier. Mettre chacun responsable de ses actes. D'où que vienne l'acte délictuel. Celui qui en est l'auteur doit être tenu responsable, jugé et condamné, conformément aux lois de ce pays. Et puis enfin, cela permettra la restauration de l'autorité de l'État. C'est vraiment l'objectif que nous visons ici. Voilà ce que je pouvais répondre à cette question.
Voilà, nous allons peut-être, avant de boucler cette conférence de presse, on peut la poursuivre, hein, mais je sais que les questions ne finiront jamais. Je vais laisser peut-être la parole à Madame Seck Denu Femme pour nous donner un petit mot avant qu'elle ne puisse partir.
Voilà, donc juste pour redire bonne fête à tout le monde, mais pour dire aussi que nous profitons de cette fête pour parler du mouvement féminin et encourager son renforcement en RDC. Pour ce faire, je vais profiter du micro pour lancer un appel à candidature à toutes les femmes leaders de la RDC, parce que nous sommes en train de réaliser un annuaire des femmes leaders. Et si vous êtes une femme leader, vous connaissez une femme leader, vous êtes responsable politique, fonctionnaire avec de hautes responsabilités, avocate, juge, journaliste, responsable de la société civile, du monde académique, des entreprises publiques, organisations internationales, ONG, chef d'entreprise ou bien journaliste. Ah, j'ai parlé des journalistes. Faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC qui sera produit. Et j'ai un numéro de téléphone, je ne sais pas si vous pouvez le prendre. C'est le 0826 291 154. 0826 291 154. Ce qui est recherché à travers ça, c'est vraiment de parler de ce qui est positif. Parce qu'on a parlé de beaucoup de problèmes, mais également il y a beaucoup de personnes qui interviennent, des hommes et des femmes. Et j'aimerais qu'on profite de ça pour les distinguer. Encore bonne fête. Merci. Continuez, s'il vous plaît, à parler des questions de genre, mais ne le faites pas uniquement le 8 mars, parce que chaque jour vous offre l'occasion d'en parler et d'apporter votre contribution.
Voilà, merci à Mme Seck et très bonne journée à tous et à toutes, et à la semaine prochaine.